Les responsables de Calédonie semblent condamnés dans l'affaire des emplois fictifs à la province sud. Le tribunal a considéré que l'infraction de détournement de fonds publics était caractérisée. La direction de la SLN rappelle le respect des règles et alerte sur un risque économique majeur alors qu'un blocage du site minier de Népuy dure depuis 2 jours. Coup dur pour la province des Îles, le complexe hôtelier de Lifou Ouadraba a été placé en redressement judiciaire avant même son ouverture. C'est la fin d'un périple qui aura duré plus de 40 jours. La marche des volontaires du RIMAPNC s'est achevée ce matin avec une cérémonie à Koumac. Et puis plus de médailles en natation pour nos cagous dans ces mini-jeux du Pacifique. Une belle entrée en matière, mais la Nouvelle-Calédonie ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et devrait remporter encore quelques belles victoires. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Philippe Gomez et Philippe Michel frappés d'inéligibilité avec exécution provisoire. Les responsables de Calédonie Ensemble ont en effet été condamnés dans l'affaire des emplois fictifs à la province sud. Ils ont été reconnus coupables par le tribunal de détournement de fonds publics et de complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire dite des emplois fictifs à la province sud. Jean-François Baudin.
Le procès s'était tenu du 12 au 16 mai dernier. Philippe Gomez, Philippe Michel, Martine Lagneau, Soutita Siolagadec et Fiou Mouliakaa avaient comparu pour s'expliquer sur l'embauche par la province sud, alors présidée par Philippe Michel, de 44 chefs coutumiers wallisiens et futuniens, et surtout sur leur rôle. Les 5 prévenus étaient soupçonnés en fait d'avoir détourné ces embauches provinciales au profit du parti Calédonie Ensemble. Lors du procès, les avocats des prévenus avaient tenté de mettre en avant le rôle légitime de ces collaborateurs de terrain choisis pour leur ancrage local et souligner l'absence de preuves d'emploi fictif. Des arguments rejetés par le tribunal qui a considéré dans sa décision que les élus incriminés avaient sciemment mis en place un système frauduleux de recrutement de ses collaborateurs, dont le seul objectif était de promouvoir l'activité politique de Calédonie Ensemble avec des visées électoralistes. Le tribunal a donc considéré que l'infraction de détournement de fonds publics était caractérisée. Dans sa décision, il a donc suivi globalement les réquisitions du ministère public. Seul Martine Lagneau a été relaxé. Philippe Gomez est condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, et un aménagement de peine pour la partie prison ferme sous bracelet électronique. Philippe Michel écope d'une peine de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis et aménagement de peine sous bracelet électronique pour la partie prison ferme. Ces 2 élus, encore en activité, sont également frappés d'une peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Siutita Siolagadec est condamnée à 2 ans de prison avec sursis et Fiumuliakaaka à 18 mois avec sursis. Eux aussi sont frappés d'une peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Des peines contestées par l'avocat de Philippe Michel et de plusieurs prévenus, Maître Frédéric de Gréland, qui annonce que ses clients feront appel.
On l'a vu avec la longueur de l'exposé pour justifier cette décision. C'est une longueur qui est carrément inhabituelle et qui a nécessité de longs développements. Pourquoi ? Parce que c'est une affaire qui, juridiquement, est très complexe. Donc évidemment, on n'est pas d'accord avec cette décision. Évidemment, nous allons faire appel pour les personnes qui ont été condamnées. Et ce débat, on le mènera jusqu'au sommet de la juridiction, c'est-à-dire que le cas échéant, il faudra aller jusqu'à la Cour de cassation pour dire le droit. Parce que dans cette affaire, il y a des tas d'éléments qui résultent d'une interprétation de la loi. Et la loi, pour qu'elle soit interprétée de façon uniforme, à un moment donné, il faut que la Cour de cassation se prononce. Donc je pense que ce débat, on l'aura, je peux vous le dire dès maintenant, hein, quelle que soit la décision de la Cour d'appel. Ça sera certainement le parquet ou nous, mais de toute façon, ce débat, il sera mené jusqu'à son terme devant la Cour de cassation.
Au-delà des peines de prison, Philippe Gomez, Philippe Michel, Siutita Siolagadec et Fiou Mouliakaaka sont condamnés à une peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, ce qui n'étonne pas Maître de Gréland.
C'est la mode, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est la mode, c'est comme ça. On l'a fait dans différentes décisions précédentes. Et je dois dire que les juridictions, quelles qu'elles soient, ne sont pas insensibles au phénomène de mode. Donc maintenant, on colle des exécutions provisoires quand on condamne. Et puis, très bien. Bah, nous ferons appel de ça aussi. Et puis le cas échéant, on verra, parce que je n'ai pas vu mes clients pour le moment, s'il y a lieu de faire une demande de suspension de cette exécution provisoire.
Et en ce qui concerne cette décision d'inéligibilité avec exécution provisoire, Calédonie Ensemble indique sur sa page Facebook vouloir déposer dans les prochains jours un référé de suspension devant la Chambre de l'instruction et un recours au fond devant le Conseil d'État en ce qui concerne cette décision. D'autre part, Philippe Gomez, Philippe Michel et Calédonie Ensemble sont condamnés à verser conjointement 116 millions de francs à la province sud au titre du préjudice subi, puisque les collaborateurs recrutés et payés par la province ont travaillé exclusivement à expliquer le tribunal au profit de Calédonie Ensemble, ce qui satisfait le bâtonnier maître Philippe Rutter, avocat des parties civiles, en l'occurrence de la province sud dans ce dossier.
Toutes nos demandes financières ont été satisfaites, puisque effectivement la province sud avait exposé avoir subi un préjudice du fait des salaires qui avaient été dispensés pendant toute cette période. Et effectivement, un jugement de condamnation est tombé à cet égard. C'était logique d'ailleurs s'il y avait un jugement de culpabilité.
Au-delà des condamnations financières, il y a la peine d'inéligibilité. Qu'est-ce que vous en pensez ?
La peine d'inéligibilité, si vous voulez, elle est tout à fait classique et logique en la matière. Si vous avez un jugement de culpabilité, vous avez automatiquement une peine d'inéligibilité. Donc c'est tout à fait normal.
Cette peine d'inéligibilité avec exécution provisoire va avoir des conséquences politiques et institutionnelles. Le haut commissaire va être destinataire dans les prochains jours du jugement du tribunal correctionnel. C'est lui qui devra ensuite signifier aux intéressés leur démission d'office. À partir de cet instant, Philippe Michel et Philippe Gomez ne pourront plus siéger ni à la province sud, ni au Congrès, où ils doivent être remplacés par leurs suivants de liste. Il s'agit de Martine Lagnot et de Pierre Ferbanque à la province sud et de Nina Julier et Jean Keys au Congrès. Nina Julier ayant quitté Calédonie Ensemble pour fonder Génération NC avec Nicolas Metzdorf, elle ne siégera pas sur les bancs de Calédonie Ensemble, qui pourrait ainsi perdre son groupe politique, ce qui pourrait entraîner des changements en cascade, notamment à la commission permanente. Les prochains jours devraient permettre d'en savoir plus sur ces éventuels changements. Enfin, on peut noter que la condamnation de Philippe Gomez à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire va poser la question de sa participation au sommet de Paris, qui doit s'ouvrir demain soir pour nous.
Et vous le disiez, Jean-François, la condamnation à une peine d'inéligibilité de Philippe Gomez est un véritable coup de tonnerre politique, à tel point que lui-même ne veut pas y croire, Elisabeth Noir.
Philippe Gomez avait annoncé à plusieurs reprises qu'il voulait mettre un terme à sa vie politique, mais c'est la justice qui s'en sera chargée avec cette exécution provisoire qui lui fait perdre ses mandats de conseiller à la province sud et au Congrès, alors qu'il a été sur le devant de la scène politique calédonienne depuis au moins 2004. C'est l'année où il s'empare du pouvoir en chassant Jacques Lafleur de la province sud, alors qu'il était à la tête de l'Avenir Ensemble, un parti qui éclatera en 2007. Il créera alors Calédonie Ensemble. Philippe Gomez sera ensuite membre puis président du gouvernement, député de la première circonscription de 2012 à 2022 et élu sans interruption à la province sud et au Congrès. Un responsable politique omniprésent dont les choix politiques ont souvent été ambigus et qui se sont souvent construits en opposition avec sa propre famille politique, au point qu'il a souvent été soupçonné d'être partisan, malgré ses protestations, d'une indépendance association. Comme pour accréditer ses soupçons, il a d'ailleurs soutenu fortement ces dernières semaines le projet Valls, dont il est encore l'un des supporters. Ses démêlés avec la justice ne datent pas d'hier, mais Philippe Gomez a jusque-là toujours échappé à la condamnation. C'est ce que rappelle d'ailleurs Calédonie Ensemble dans un long communiqué qui explique que la décision d'aujourd'hui est en l'espèce totalement contraire à celle rendue par 4 magistrats du parquet et du siège à 3 moments distincts de la procédure qui ont considéré en 2013 et en 2014 que les faits incriminés n'étaient en rien constitutifs d'un délit. L'environnement juridique n'ayant aucunement changé depuis 2014, Calédonie Ensemble s'étonne de cette condamnation et fait appel de la décision du tribunal correctionnel de Nouméa. Elle annonce également qu'elle déposera dans les prochains jours un référé suspension et un recours au fond devant le Conseil d'État en ce qui concerne la décision d'inéligibilité avec exécution provisoire rendue par le tribunal correctionnel. Mais l'inéligibilité semble inéluctable à terme dans un long poste intitulé « Le fossoyeur de la Nouvelle-Calédonie enfin condamné ». Sonia Baquès, qui est actuellement à Paris, souligne que la carrière politique de Philippe Gomez s'est faite de petites ou de grandes décisions qui ont ruiné la Calédonie. Elle parle d'un destructeur et affirme qu'elle ne peut que se satisfaire de la fin programmée de sa vie politique. Cette fin programmée n'arrivera sans doute pas dans les prochains jours, écrit Sonia Baquès. Il se battra jusqu'au bout pour être autour de la table des négociations et pourra sans doute compter sur le ministre d'État pour l'y imposer. Il restera encore peut-être élu, utilisant tous les subterfuges juridiques pour continuer son œuvre de destruction. Mais nous serons là pour rappeler la décision de justice sans concession qu'il l'a condamnée et sa parole ne peut plus être entendue après cela, écrit Sonia Baquès. Reste à savoir effectivement si Philippe Gomez, s'il est bien frappé d'inéligibilité, pourra ou non siéger valablement autour de la table pour les discussions sur l'avenir politique de la Nouvelle-Calédonie.
On en sait un peu plus sur le programme du sommet sur la Nouvelle-Calédonie. Nous vous l'avons présenté dans nos précédentes éditions. Ce sommet sera ouvert demain, mercredi 2 juillet à 15h à l'Élysée par le président de la République. Les négociations politiques débuteront dès le mercredi soir à l'hôtel Hilton de Bougival et elles se poursuivront sans échéance prédéterminée. Le collège économique et sociétal se déroulera quant à lui au ministère des Outre-mer du 3 juillet au matin jusqu'au 4 juillet à midi. Il portera sur quatre grands thèmes: les finances publiques, le nickel, la diversification économique et le projet de société. Ces réunions sur les thèmes économiques et sociétales seront menées également en visioconférence depuis le Haut Commissariat à Nouméa pour permettre à d'autres participants d'intervenir à distance. C'est le ministre des Outre-mer qui animera ces échanges. Il faut noter que l'ensemble des participants au sommet sera associé à ces séquences de travail en fonction de leur champ de compétences.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour: dans quel domaine attendez-vous des avancées à la veille de l'ouverture à Paris du sommet sur la Nouvelle-Calédonie? Si vous attendez surtout des avancées dans le domaine de l'avenir institutionnel, vous tapez 1. Si vous attendez plutôt des avancées dans le volet économique et sociétal, vous tapez 2. Et si vous pensez que ce sommet ne permettra aucune avancée, vous tapez 3 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et la réponse à notre question d'hier: 75% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils trouvent dommage qu'en raison des émeutes de mai 2024, le CTOS n'ait pu emmener qu'une toute petite délégation au mini-jeu de Palau. Ils sont 25% à ne pas partager cette opinion. Merci de votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Deuxième jour de blocage sur le site minier SLN de Népouy. Dans un communiqué, l'industriel rappelle le respect des règles et alerte sur un risque économique majeur. Jean-François Baudin.
Le conflit a été déclenché à l'occasion de l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gardiennage. La SLN rappelle que ce contrat a été attribué à l'issue d'un appel d'offres rigoureux. Cette entreprise locale avait répondu à la consultation et le choix a reposé sur une évaluation technico-économique précise et a été réalisé dans le strict respect des règles de mise en concurrence, souligne la SLN, qui ajoute que les emplois ont tous été maintenus. En effet, les salariés qui assuraient la sûreté du site conservent leur emploi et leurs contrats ont été transférés vers le nouveau sous-traitant. La SLN s'inquiète des conséquences de ce blocage, car s'il devait se prolonger, il pourrait conduire à l'activation d'une clause de cas de force majeure, entraînant dans un premier temps la suspension des contrats de sous-traitance. Une telle issue aurait des conséquences économiques immédiates et potentiellement dramatiques pour l'ensemble du bassin d'emploi local. De plus, le site de Thiot est toujours inaccessible. Le minerai de Coahua ne peut être évacué depuis l'incendie de la Serpentine en mai 2024 et la de Népouy compromet l'approvisionnement de l'usine de Doniambo et menace la continuité de toute la chaîne industrielle, souligne la SLN.
Il est 17h, passé de 58 minutes. Première pause avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire et notamment cette enquête ouverte par le parquet de Nouméa pour trafic de stupéfiants. A tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Gédimat, 51 rue Auer à Ducos, c'est le partenaire des pros et des particuliers. Peinture, lasure, revêtement de sol et mur, salle de bain, produits techniques, étanchéité, électroportatif et quincaillerie. Gédimat, 25 98 84 ou sur Facebook, Gédimat Nouméa.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Info soir, Léana Colombo.
Justice et une enquête ouverte pour trafic de stupéfiants en mer après l'interception d'un navire par la Marine nationale le 25 juin dernier. Le patrouilleur outre-mer Auguste Bénébig, appuyé par un gardien de la Marine nationale, a ainsi arraisonné un navire suspect à près de 400 milles nautiques de Nouméa. Le bateau à moteur SM Dante naviguait dans les eaux internationales avec une cargaison de 2,5 tonnes de cocaïne trouvée dans la soute du navire. Une opération coordonnée par l'État, les FANC, la police judiciaire et la direction territoriale des douanes. Sept membres de l'équipage, composés de 2 Portugais et de 5 ressortissants équatoriens, ont été placés en garde à vue le 29 juin dernier. Il ressort des premiers éléments de l'enquête que le navire aurait quitté le Pérou en mai dernier sans avoir effectué d'escale et devait rallier l'espace maritime australien à un point déterminé pour réaliser un transbordement de la drogue dans des hauts bords, puis dans un autre navire. Les stupéfiants étaient donc destinés au marché australien. Partons dans les îles. Et cette question, le complexe hôtelier de Wadra Bay à Lifou sera-t-il un projet mort-né ? La question se pose après que le tribunal de commerce l'ait placé hier en redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois alors qu'il n'a jamais ouvert ses portes, Jean-François Baudin.
Son ouverture, effectivement annoncée pour décembre 2024, n'a jamais eu lieu. Le Wadra Bay représente un investissement de 5 milliards financé par la Sodil et par l'État au travers notamment de la Banque des Territoires, mais il est allé de déconvenu en déconvenu et les violences insurrectionnelles de l'an dernier ont sans doute signé son arrêt de mort. Son exploitant, la SAS Gigadex, doit désormais rembourser les dettes qui se sont accumulées, explique le président de la Sodil, Jacques Dralu.
La décision du tribunal, c'est parce que la société Gigadex a engendré des dettes et aujourd'hui, le tribunal constate que ces dettes qui sont exigibles ne peuvent pas être remboursées. Les principales dettes de Gigadex, il y a une dette, c'est les entreprises qui ont travaillé sur le chantier, donc il y a encore pas loin de 150 millions à leur devoir. Il y a aussi des investisseurs locaux, puisqu'on ne le dit pas assez, mais le financement de Wadra Bay, c'est pas loin de 40% de fonds privés, donc des investisseurs métropolitains. Il y a une défiscalisation métropolitaine, mais il y a aussi une défiscalisation locale. Et donc aujourd'hui, les délais sont passés, il faut rembourser les investisseurs locaux.
Cet établissement 5 étoiles portait pourtant tous les espoirs de la province des îles. Il devait à la fois promouvoir la destination à l'international et créer une 50aine d'emplois. Le secteur étant complètement sinistré depuis les émeutes de 2024, un plan de redressement a été élaboré, mais il ne sera possible qu'avec la participation de tous les acteurs du secteur, explique Jacques Dralu.
Ce plan-là, il dépend de tout le monde. Il dépend de ceux qui décident, c'est-à-dire les marchés qui ont toujours été là, c'est-à-dire l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, jusqu'à ce qu'on arrête de faire le Nouméa Tokyo, le marché métropolitain. Donc on tombe toujours sur les mêmes marchés. Mais si tout le monde ne joue pas le jeu, c'est-à-dire si le transporteur à l'international ne joue pas le jeu, ben on a perdu les Japonais. Et ça se ressent sur Ouvéa. Les événements ont fait que plus aucun touriste ne souhaite aller sur les îles, aggravés par les problèmes de la compagnie domestique. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on doit tenir compte.
Le Jacques Dralu, le président de la Sodil, le tribunal de commerce a donné 6 mois aux investisseurs pour reconsidérer la situation. Et c'est en novembre qu'il statuera définitivement sur l'avenir de cet hôtel Wadra Bay.
La bibliothèque Bernheim est dans le viseur de la Chambre territoriale des comptes. Saisie par le haut commissaire, la CTC a rendu hier un avis pointant la situation budgétaire critique de l'établissement après l'adoption d'un budget primitif en déficit. Depuis 2019, la structure fait face à une baisse de 24,5% de ses recettes et une hausse de 19,5% de ses charges, conséquence notamment due au désengagement progressif de ses financeurs. La Chambre juge impossible le retour à l'équilibre sans plan de redressement. Wally Waïcha, présidente du conseil d'administration de la bibliothèque Bernheim, détaille les changements en cours.
L'une des préconisations, notamment de la CTC, de discuter avec les financeurs et de voir comment on peut arriver à garantir le soutien financier de nos établissements publics. On a des difficultés aussi à baisser la masse salariale, mais il y a eu déjà des non-renouvellements des personnes, des agents qui vont à la retraite. Là, en ce moment, au niveau de la bibliothèque Bernheim, il y a déjà 9 agents qui sont en temps partiel. Il y a une réflexion aussi dans le plan de redressement d'augmenter certaines de nos prestations. Donc, il y a une réflexion véritable qui se fait au niveau de l'équipe, au niveau du CA et au niveau de l'établissement. Et c'est en cours de procédure.
Un nouveau budget a déjà été adopté avec l'accord de la CCT permettant à la bibliothèque de tenir jusqu'à la fin de l'année. Le plan de redressement présenté est pour l'instant un avant-projet. Son adoption définitive est prévue pour le mois de septembre. Le groupe UCF-LNKS et nationaliste du Congrès dépose une résolution pour reconnaître et déclarer l'urgence sociale en Nouvelle-Calédonie. Il attendait l'examen du compte administratif 2024 pour prendre cette initiative qui prend en compte la grande détresse économique et sociale du territoire. Pour le groupe UC, le 13 mai n'a été que le révélateur d'une crise dont il faut aujourd'hui s'attaquer aux causes. Cette résolution a été présentée ce matin par Pierre Chanel Tutugoro, le chef du groupe UCF-LNKS, et par deux élus UC, Maria Waka et Renué. Pierre Chanel Tutugoro qui est complètement dans le déni concernant les conséquences des violences insurrectionnelles.
La situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle est surtout liée à une révolte sociale et une révolte populaire que la démarche politique a mis en lumière. C'est ce qu'on dit. Donc, il est aujourd'hui de notre responsabilité en tant qu'institutionnelle de ne pas simplement faire des constats, mais de faire surtout des propositions d'action. Comme on l'a fait au mois de juillet l'année dernière, mais personne ne nous a entendu.
Cette résolution d'urgence sociale réclamée par le groupe UC permettrait de mobiliser des dispositifs juridiques, budgétaires et humains exceptionnels, de donner un cadre aux actions solidaires menées par la société civile et enfin de restaurer la confiance de la population.
Il est 18h05.
C'est aujourd'hui que s'applique la baisse des prix sur une large sélection de produits de première nécessité et de grande consommation. Une mesure issue d'un accord interprofessionnel visant à redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens. Plus de 100 produits sont concernés, du pain, du beurre, mais aussi des articles très consommés localement, comme la sauce Maggi ou le Milo. L'accord prévoit un plafonnement des marges pendant un an et objectif affiché est soutenir la consommation, alors que de nombreux ménages sont en difficulté depuis les émeutes de mai 2024. Les clients devant Auchan Kéferi semblaient satisfaits de ce changement.
Oui, j'ai vu un tout petit peu que ça a baissé, parce que d'habitude c'est trop cher.
Je trouve que quand même c'est assez important, tout le monde n'a pas les moyens pour manger correctement, donc c'est plutôt cool. Les prix sont déjà chers ici, beaucoup ont perdu leur travail malheureusement. Donc c'est vrai que le pain, le beurre, les pâtes, le riz, tout ça c'est des choses qu'on utilise tous les jours et heureusement ça baisse, ça va faire du bien.
Le riz, le lait pour les enfants, les couches, tout ça là. Mais voilà, on n'en peut pas les moyens comme c'est trop cher, mais là ça va. C'est baisser les prix, on est content après, on pourra vivre mieux, quoi. Pas survivre, mais vivre là.
Les distributeurs devront garantir la disponibilité des produits concernés. En cas de rupture de stock, les fournisseurs et les distributeurs devront proposer un article équivalent. La marche des volontaires s'est achevée ce matin. Après 44 jours de marche et 740 km parcourus, répartis en 12 tronçons entre Prony et Coumac, il s'agissait de recréer la distance parcourue pendant la Seconde Guerre mondiale par les anciens combattants calédoniens du bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique. Ce matin, le dernier relais s'est fait du côté du RSMA de Coumac en compagnie des classes défense. Un défi sportif, mais surtout humain, explique le colonel Loïc Belbéoc, commandant du RIMAPNC.
De la bonne humeur et de la sueur, et c'était un beau défi. Mais comme j'ai dit aux jeunes de classe défense qui ont terminé avec nous à commun, que je leur ai dit, voilà, il faut aimer l'effort, le goût du dépassement de soi, et vous irez loin. Il y a eu 16 tronçons, il y en a qui étaient plus compliqués que d'autres parce que plus engageants physiquement, mais il n'y a pas eu de blessés, et puis on a réussi à faire le relais, et même à embarquer des anciens combattants, et aussi des jeunes, soit des tribus, soit des classes défense, qui ont marché sur une partie des itinéraires ou des tronçons avec nous. On a pu faire du lien, notamment avec l'ensemble des tribus qu'on a traversées les différentes aires, et puis de leur présenter cette marche mémorielle pour leur rappeler qu'il y avait des anciens, des volontaires du Pacifique qui étaient partis en 1940 pour s'engager pour le combat de la France.
Une aide d'honneur a été faite au dernier relayeur et une cérémonie était organisée dans la foulée au RSMA de Coumac, en présence notamment des coutumiers, des jeunes des classes défense et les militaires du RSMA. L'éloquence est accessible à tous et l'art oratoire, ça se travaille. Le sujet était ce midi au cœur du magazine Citoyen, avec le témoignage notamment de deux des trois étudiantes en droit qui ont remporté à La Haye, aux Pays-Bas, un concours inter-université international au début du mois. Une fierté pour elles qui les a mobilisées pendant 5 mois et qui leur a appris beaucoup de choses, a expliqué l'une de ces étudiantes, Asia Benaraj Testa.
Pour ma part, puisque j'envisage la voie de l'enseignement,
Ça a été assez formateur de se rendre compte que on n'emploie pas le même langage. Nos enseignants, au fur et à mesure de la formation, il y a une gradation de la difficulté du langage, du lexique. Ils ont de plus en plus d'attentes. Et j'ai fait un stage en cabinet d'avocat où là aussi, quand il y a un client qu'il faut lui expliquer quelque chose, on ne peut pas l'expliquer comme on l'explique à un camarade, comme on l'explique dans un devoir ou sur une copie d'évaluation. Donc je dirais que ça a été très enrichissant sur ce point-là de diversifier le langage et surtout savoir s'adapter au public plus que quand on est dans notre microcosme juridique avec tous ces termes compliqués et surtout ce vieux français encore appliqué. C'est très 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 plaisant et on espère que ça inspire les prochaines générations de participer à des événements dans ce genre.
Annabelle Arnaud est professeure de lettres modernes au lycée Jules Garnier et organisatrice du concours Rhetorica dont la finale aura lieu demain. À ce titre, elle constate les bienfaits du travail sur l'expression orale avec ses élèves.
On constate à l'heure actuelle que les jeunes parlent peu, voire pas du tout. Donc pour nous, c'est un vrai cheval de bataille de travailler l'expression orale. Je pense que l'aisance verbale peut être accessible à tous dès lors qu'on le souhaite et dès lors qu'on le travaille. Pour ma part, je vois les élèves en début d'année complètement réticents à l'idée de participer à un concours d'éloquence. Et puis à partir de petits exercices, certains gagnent en aisance et on aboutit finalement à des discours qui sont géniaux. Et on les voit éclore. Et franchement, quand on pense au début de l'année et à ce que l'on voit le jour de la finale, on est vraiment hyper fiers de voir leur progrès. Et certains se découvrent de véritables talents cachés qu'ils ne soupçonnaient pas.
Un magazine citoyen retrouvé dans son intégralité sur notre site internet rrb.nc. En bref, l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie, l'ASSNC, lance une campagne pour alerter sur l'importance du suivi des traitements contre le rhumatisme articulaire aigu ou RA. La communication se déroulera jusqu'au 20 juillet. La SSNC explique que malgré un dépistage précoce, de nombreuses familles abandonnent les soins, exposant à des complications cardiaques graves. Le traitement est souvent interrompu pour plusieurs raisons, dont la douleur, alors qu'il est pris en charge à 100%. La campagne vise donc à informer, rassurer et mobiliser autour d'un suivi vital pour protéger le cœur des enfants. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet santépourtous.nc. Notez un rendez-vous sur notre antenne. La Banque alimentaire recherche un doc urgemment. L'association s'inquiète alors que le doc qu'elle occupe pour ses activités mises à disposition par l'OPT ne sera plus disponible en fin d'année. Et pour l'instant, elle n'a pas de solution de rechange. Nous en parlerons demain avec la présidente de la Banque alimentaire, Betty Levanquet, qui sera notre invitée demain matin à 7h30. 18h12, seconde pause avant de voir le reste de l'actualité dans la région. Et le sport, à tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Mon Club, l'appli fidélité numéro 1 en Nouvelle-Calédonie. Dans vos hypermarchés géants et supermarchés casino, cagnotez 10% sur plus de 1000 produits toute l'année. Oui, oui, Mon Club, c'est plus de 1000 produits remisés toute l'année dans vos hypermarchés géants et supermarchés casino. L'application Mon Club, engagée toute l'année pour votre pouvoir d'achat. Pensez à la présenter en caisse.
Remise créditée sur la cagnotte réservée aux membres Mon Club. Non cumulable avec d'autres promotions en cours, non échangeables et non remboursables. Hors alcool et produits réglementés. Application gratuite la première année, puis cotisation annuelle de 1000 francs prélevée sur la cagnotte sans lien avec votre compte.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La fin de votre journal, il est 18h12 avec Léana Colombo.
Et l'actualité dans la région, l'ambassadeur de Chine à Canberra demande au Premier ministre australien de ne pas augmenter son budget de la défense et de le porter à 5% du PIB, comme l'ont accepté les pays de l'OTAN. Il a évoqué pour le justifier des motifs relationnels et socio-économiques. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Dans une lettre ouverte, Chao Chang a averti l'Australie que, je le cite, l'augmentation spectaculaire des dépenses militaires imposera un lourd fardeau fiscal à son budget, compromettra le développement économique du pays et aggravera davantage encore la pression exercée sur une économie mondiale déjà plombée par une faible reprise. La Chine et l'Australie sont amies et non point ennemies, a-t-il poursuivi, avant de préciser que, je le cite toujours, le budget militaire de Pékin est normal vu que 1,5% seulement du PIB lui est consacré. En réponse, Anthony Albanese a une nouvelle fois rejeté la requête de Washington qui lui demandait d'augmenter ses dépenses militaires et a déclaré que son travail consiste à parler au nom de l'Australie. Il est dans l'intérêt national que nous investissions dans nos capacités et dans nos relations, et c'est exactement ce que nous faisons, a-t-il insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et direction Palau pour parler des mini-jeux du Pacifique et les résultats de nos Calédoniens sur place.
Suivez les mini-jeux du Pacifique avec Toyota Location. Les mini-jeux du Pacifique, c'est aussi avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
La compétition qui a très bien démarré pour nos Cagous qui ont déjà remporté 6 médailles tout en natation. Des jeunes nageurs de talent, Manon Baldovini a remporté 2 médailles d'or, une sur le 200 mètres brasse et l'autre avec le relais sur le 4x100 mètres nage libre, aux côtés de Luziala Hacha, Clara Delunel et Camille Jarcé. Les 4 autres médailles de bronze sont signées Luc Mercier, Clara Delunel et Camille Jarcé et Yaron Nandache. On notera également la quatrième place de Luzia Lahacha sur le 50 mètres brasse. Les finales se dérouleront ce soir à 19h, heure de Nouméa. Il y aura également du volleyball à la même heure. Les Cagous affronteront Nauru, les jeunes Calédoniens qui sont tous fiers de participer à cette compétition et de représenter la Nouvelle-Calédonie. Écoutez le volleyeur Donovan Iwa.
Alors pour moi, c'est la première fois. C'est une grande expérience là qu'on est en train de vivre et c'est un stress encore et plus avec la compagnie de mes coéquipiers. Je me sens vraiment en confiance. Grâce à eux, on va pouvoir essayer de viser la victoire et surtout la médaille d'or. Et ensuite, avoir plus confiance en nous pour le match de demain contre Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dans le reste de la délégation calédonienne, on peut citer le champion d'athlétisme Nicolas Cazareru. Il est arrivé à Palau hier, directement depuis la métropole où il s'entraîne. Il arrive confiant et fier de représenter la Nouvelle-Calédonie.
Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Même si on est loin en France, on garde toujours un œil sur ce qui se passe en Calédonie, sur le sport, tout ça. Donc ça me fait vraiment plaisir de revenir parce que je me suis beaucoup entraîné pour. Même si on est en France, on garde quand même un gros pied en Calédonie. C'est une fierté de pouvoir représenter la Calédonie en athlétisme. Pour l'instant, je ne me suis pas trop renseigné sur les adversaires. Je ne m'en fais pas, on donnera le meilleur et on verra ce que ça donnera, mais on fera tout pour être devant.
Une délégation sportive, c'est bien sûr des athlètes, mais aussi tout le staff médical. Là aussi, en raison de soucis budgétaires, il a fallu réduire au maximum. Daphné est ainsi la seule kiné à avoir fait le déplacement avec nos Calédoniens. Mais pas de soucis pour elle, c'est juste une question d'organisation.
Je me considère pas forcément seule parce que on travaille en collaboration avec les médecins à Nouméa en téléconsultation et j'ai vraiment des urgences avec les médecins de Tahiti et je suis vraiment soutenue par l'ensemble de l'équipe, notamment par l'équipe du village. Donc c'est une certaine organisation, c'est sûr, mais sur les vrais jeux aussi habituellement, je pense qu'on a aussi une trentaine d'athlètes à prendre en charge individuellement, même si c'est un autre effet de masse et une autre organisation, mais pour l'instant tout se passe plutôt bien.
Et je rappelle que les mini-jeux se poursuivent jusqu'au 9 juillet.
Les mini-jeux du Pacifique vous ont été proposés par Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs par jour. Seulement 3900 francs par jour. Toyota Location à Nouméa, Koné et Lifou. Un seul numéro, 24 28 28.
Page spéciale mini-jeux du Pacifique, résultats, réactions. Suivez chaque jour les cagous sur RRB avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Et les résultats de nos cagous partis à Palau seront bien entendu à suivre tout au long de nos différentes éditions. 18h18, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
La météo, c'est avec vous Pierre.
Cette nuit, aux Loyautés, les averses seront rares. Sur le reste du pays, la nuit sera pluvieuse avec des passages d'averses parfois fortes, en particulier sur la côte est. Le vent de nord à nord-est soufflera de 15 à 20 nœuds, localement 20 à 25 nœuds, avec des rafales à 30 nœuds sur l'extrême sud. Les minimales resteront stables et seront supérieures aux valeurs de saison. Elles varieront de 21 à 24 degrés. Le lendemain matin, le temps sera gris et pluvieux sur le pays. Sur Bélep, la pointe nord et les Loyautés, les précipitations seront éparses et faibles. Ailleurs, les averses seront fréquentes et parfois fortes, voire orageuses sur le sud de la Grande Terre. Sur l'est, les Loyautés et l'île des Pins, le vent de secteur nord soufflera de 15 à 20 nœuds avec des rafales à 30 nœuds sur la pointe sud et l'île des Pins. Sur la côte ouest, le vent s'orientera au secteur nord-ouest entre 5 et 10 nœuds.